Bonjour, bienvenue sur le podcast Sortir du Burnout de Human Tempo. Human Tempo organise des césures destinées à toutes les personnes fatiguées, épuisées ou en burnout durant toute l'année dans notre petit château en Bourgogne. Retrouvez-nous sur notre site www.humantempo.com. Je suis Rachel You, cofondatrice, et j'accueille à ce micro d'anciens participants, des intervenants, mais aussi toutes sortes de personnes passionnantes. C'est parti pour l'épisode du jour.
Alors, dans cet épisode de podcast, j'ai le plaisir d'avoir comme invité spécial Sky, donc Sky Delacroix. Avec Sky, en fait, nos chemins se sont croisés du côté du Ouillant-Josas autour des années 2000, au début des années 2000. Et puis, ben, on s'est perdu de vue et il se trouve que nos chemins se sont recroisés il y a quelques mois. Puisque Sky, après un long séjour outre-Atlantique, bah, tu es revenu côté Europe. Et donc, voilà, après avoir échangé, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant d'avoir ton point de vue sur le sujet du burn-out, notamment, mais aussi plus largement, hein, puisque tu vas nous en dire plus, mais tu as développé durant toutes ces années une pratique vraiment intéressante. Donc, bah, est-ce que ça te va pour commencer de peut-être nous dire quelques mots pour te présenter, nous dire ce qui te définit aujourd'hui ?
Oui, avec plaisir. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai passé 15 ans aux États-Unis et mon français est loin d'être parfait maintenant.
Donc, il ira très bien.
J'ai vraiment pas beaucoup parlé français pendant toutes les années, même si j'ai toujours un très fort accent en anglais. Mais donc, il y a beaucoup de choses de ma pratique, en fait, que j'ai apprises en anglais. Donc, voilà, après cette petite excuse. En gros, oui, moi, j'ai fait HEC, donc c'est là où j'ai rencontré Rachel. Et après, j'ai eu un virage assez radical, en fait, dans ma vie. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais j'ai notamment passé 3 années en silence, en fait, où j'ai vraiment appris à complètement... complètement déconstruire beaucoup de choses au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel, à vraiment me recentrer sur ce que j'appelle mon moi profond, en français, je dirais, et à rester connecté avec cette source d'énergie. C'était vraiment un travail énergétique que j'ai fait. Et donc maintenant, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'enseigne beaucoup, je soigne et j'enseigne, en fait. Donc, j'aide les gens à se guérir de traumas, ça peut être des traumas mentaux, hein, comme de la bipolarité, comme des psychomaniaques dépressifs, pas mal, tout différents types de traumas. Pour moi, c'est un peu toujours le même processus. Et aussi des maladies chroniques, en fait, comme la maladie de Crohn, la maladie de Lyme, je crois qu'on est en français, comme le cancer, comme différents. J'apprends aux gens, en fait, des outils qu'ils utilisent et qui peuvent complémentariser avec avec d'autres pratiques, avec ce que leur médecin concerne, avec d'autres techniques de sophrologie ou de souffle, je sais pas comment on dit breathwork en français,
respiration.
Ouais, de respiration. Voilà. Et en appliquant ça, ils arrivent généralement à se soigner assez rapidement, en fait, et à changer des maladies auto-immunes, pas mal de choses comme ça. Donc, de plus en plus maintenant, parce que je commençais à faire beaucoup, beaucoup de soins, et c'est un échange énergétique assez intense. Je commence à avoir des migraines, moi aussi, et des mini burn-out. Donc, j'ai développé un programme pour enseigner aux gens à le faire eux-mêmes, en fait. Donc, un programme qui s'appelle Potentia, donc la puissance, en fait, qui aide les gens à vraiment taper sur ce que j'appelle leur super-humain, en fait, leur surhumain, cette capacité... c'est humain, mais c'est un peu au-delà de l'humain aussi, qu'on a tous, qu'on peut appeler le chi dans certaines traditions, le prana dans d'autres, cette force, en fait, cette force de vie, ce qu'on appelle le ka pour les Égyptiens, c'est le nom de ma practice, ka energetics. Donc j'apprends aux gens vraiment à connecter avec cette source de vie, cette source de force, à la maîtriser, en fait, et à l'activer, à se protéger, à se soigner, et changer aussi leur état mental pour pouvoir prendre leur santé, leur vie dans leurs mains.
Alors, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent activer leur propre potentiel pour trouver les clés en eux. Et là, ça rejoint aussi notre approche vis-à-vis de l'épuisement et du burn-out, c'est-à-dire qu'on peut expliquer plein de choses aux gens, on peut donner des clés, mais à la fin, c'est est-ce que la personne va être en mesure de les appliquer, comment elle peut s'autonomiser, en fait. Nous, on est là à un moment, mais on ne sera pas là tout le temps. Donc, ouais, j'aime bien ce côté, voilà, trouver en toi les ressources. Bon, super. Et alors, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus déjà sur toi, les moments où peut-être tu as croisé le chemin de l'épuisement? Est-ce que ça t'est arrivé personnellement? Est-ce que tu as accompagné des personnes qui ont traversé des burn-out? Qu'est-ce que t'en as retiré en fait? Déjà, toi, est-ce que tu as une expérience personnelle à ce niveau-là?
Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas si c'est un burn-out typique, mais j'en ai quand même
une. Un burn-out typique.
Voilà, peut-être que je suis pas un spécialiste. J'aide les gens, j'aide pas mal de gens à en sortir, mais je l'ai jamais vraiment labellisé comme ça, pour être honnête. Tu vois, mais je vois des gens, oui, épuisés nerveusement. Je le vois souvent lié à un manque de sens de vie. Pour moi, ça, chaque fois que je vois les gens entrer dans cet épuisement, c'est que généralement, ils sont pas nécessairement dans leur voie, en fait, et du coup, ils forcent. Donc, c'est comme ça que j'ai des gens, c'est à trouver quelle est leur voie, en fait, quelle est leur purpose, hein, je crois que c'est en anglais, leur mission, enfin, pourquoi ils sont là sur Terre, en fait.
Parce que le sens, oui.
Voilà, il y a une raison. Pour moi, on n'est pas juste des êtres de flèche, de
comment dire, de chair. La production.
Voilà, de chair qui apparaissent comme ça, créer de la matière. Il y a quelque chose d'un petit peu plus profond dans les raisons pour lesquelles on vient au monde. Et on vient au monde pour réaliser une mission, pour se réaliser. Cette mission, c'est vraiment de croître, hein, c'est d'être capable de s'aligner avec son soi profond. Pour moi, c'est ça l'essence de sa mission. Après, ça peut, voilà, ça peut être devenir un soigneur, devenir un enseignant, devenir un pompier. Voilà, ça, c'est des voies. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Donc, généralement, ce que j'aide les gens, c'est ça. C'est à trouver leur voie pour qu'ils puissent après, parce que notre énergie, une fois qu'on a trouvé ça, est beaucoup plus vital, quoi, beaucoup plus activé. Donc, c'est beaucoup plus facile même de faire beaucoup de choses, en fait, une fois qu'on est sur notre propre voie sans s'épuiser. Donc, c'est une des premières choses, généralement, que je fais. Et c'est pour ça que je dis, moi, c'est un petit peu différent. Parce que moi, ma voie, je l'ai quand même trouvée depuis assez longtemps. Après, c'est pareil, je me demandais qu'est-ce que je vais faire. C'était pas vraiment je voyais pas comment j'allais me réaliser en faisant du marketing. Et j'étais pas tout à fait d'accord à manipuler des gens aussi pour faire de l'argent, parce que c'est vraiment ce qu'on apprenait, enfin beaucoup de techniques de manipulation, donc j'avais un problème avec ça. Et après, bon, j'ai eu de la chance, en tout cas j'ai cherché, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai trouvé ce que je voulais faire, et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a toujours aidé à passer à toutes les étapes que j'ai eues. Mais il y a 4-5 ans, oui, j'ai eu un divorce qui a été très très difficile, un mariage très difficile aussi. Et après, j'ai travaillé beaucoup pendant probablement 6-9 mois après. Je travaillais beaucoup pour oublier, quoi, parce que c'était vraiment très, très dur ce qui s'était passé. Et je travaillais, ouais, 12-14 heures par jour. Enfin, quand je travaillais pas, j'écrivais mon film. Je me levais le matin à 5 heures. Je finissais peut-être à 10 heures tous les jours. Et après, ouais, j'ai eu un moment quand même de fatigue nerveuse et de relâchement qui a duré un bon moment quand même pour me recentrer. Ça m'a forcé moi aussi à remettre en place, parce que j'ai un mal de dos en fait chronique que j'arrivais pas à soigner. J'ai tout essayé pendant 2-3 ans, j'avais toujours ça, donc je pouvais plus vraiment m'asseoir, je pouvais plus, fallait que je marche ou que je me lève. Et j'étais pas encore soigneur comme je fais maintenant. J'ai guidé des gens plutôt au niveau psychologique, mais pas nécessairement au niveau physique, au niveau biologique. Et donc ça m'a forcé en fait à reconsidérer comment je faisais les choses, quoi. Et à beaucoup moins forcer, parce que j'avais beaucoup de vitalité, donc je suis capable d'encaisser beaucoup. Mais là, je pouvais plus en fait. Donc ça m'a vraiment appris à voir les choses différemment, à devenir plus gentil avec moi-même, c'est ce que j'ai appris, pas toujours trop perfectionniste ou trop forcé, à trouver d'autres techniques pour mon dos, d'autres techniques émotionnelles aussi. Donc, je me suis comme ça progressivement à demander de l'aide aussi. C'est là où j'ai rencontré d'autres soigneurs aussi qui étaient assez puissants, et ça m'a montré d'autres manières d'approcher les choses. Et finalement, ça s'est vraiment sonné quand j'ai rencontré mon épouse de maintenant, justement, qui était la continuation et un peu la résolution aussi de tout ce travail, en fait. Mmh. Voilà, vraiment d'amour, yeah, et de valoriser. Donc, le mal de dos est passé vraiment quand j'ai retrouvé quelqu'un. C'était assez intéressant, d'ailleurs, que ce soit en bisous. Parce que pendant mes 3 années en silence, il y a un an, je suis resté assis sur une chaise. Donc, j'étais assis pendant 23 heures par jour.
Waouh! Ah oui, quand même.
Ouais, des fois 3 jours sans bouger, je passais littéralement sans bouger. C'est-à-dire, j'allais pas aux toilettes, je bougeais pas. Et j'ai fait ça pendant un an. Mais mon dos avait pas de problème à l'époque parce que je travaillais sur mon énergie. J'étais dans un état très, très relax, en fait, très, très relâché. J'ai pas eu de problème. Après, j'ai passé un an à marcher. Donc, je marchais entre 10 et 14 heures par jour. Peut-être 30 miles, ça fait 30, 50 kilomètres à peu près tous les jours. Et sans boire, sans manger, enfin, du matin, j'avais un petit déjeuner et après rien le soir. Je faisais que marcher et méditer tout le temps. Pareil, pas mal au dos. Et après, j'ai commencé à courir. Donc, pendant un an, je courais 40, 50 miles. Donc, ça fait quoi, 70, 90 miles.
Ah oui, c'est kilomètres. Énorme.
Ouais, c'était gros, des fois plus. Pareil, pas mal de dos. Et ça m'est arrivé 5-6 ans après. Les gens me disaient, oui, c'est parce que tu as fait tout ça. Et moi, je dis, non, je crois pas que ce soit pour ça. Je crois que c'est plus émotionnel. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et c'était le cas. J'ai eu la preuve. Parce que 3 ans après, quand au niveau de, je me suis finalement remis aux émotions, le mal de dos. Alors, il y a des choses physiques. Pour moi, tout est lié aussi, bien sûr. Mais il y a l'impact émotionnel. Pour moi, c'est vraiment ça qui enchaîne, en fait, qui enclenche le reste. En
fait, ça commence. Alors, tout à fait. Là, je pense que tu vas vraiment toucher nos auditeurs parce que très souvent, en fait, les gens qui sont en situation d'épuisement, ils vont développer effectivement des douleurs au bras, des maux de tête qui ne passent pas, des problèmes de digestion, etc. Et puis, quand ils font des examens, finalement, on leur dit, il n'y a rien, c'est le stress. Et c'est hyper déstabilisant, en fait, de se dire, mais comment ça alors, qu'est-ce que je peux faire? Arrêter de stresser, oui, mais... Comment? Donc, j'aime beaucoup ton témoignage parce qu'effectivement, on voit complètement la puissance, en fait, de notre mental, enfin, des émotions sur notre santé physique. Et donc, quand on parle de santé mentale, on parle jamais que de santé mentale parce que, évidemment, que la santé mentale a des répercussions majeures sur notre santé physique. Donc, ouais, super intéressant. Et donc, en fait, si je comprends bien, quelque part, grâce à cet épisode de burn-out, t'as pu remettre en question pas mal de choses et oser aller vers ton métier actuel, alors.
Ouais, il a trouvé la forme, en fait, sur laquelle il est venu, ouais, parce que ça m'a aidé. Alors, pendant mon burn-out, je commençais quand même déjà à soigner des gens parce que j'avais découvert un certain don, en fait, hein, même avec mes mains. Maintenant, je n'utilise pas tellement les mains, je le fais à distance. Je suis capable de les gens ressentent l'énergie partout dans le monde, en fait. Il n'y a pas vraiment de limite. Mais au début, je ne savais pas encore ça. Donc, c'était à 4-5 ans, je crois que j'étais à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Et j'avais aidé un ami, comme ça. J'avais posé mes mains. Je ne sais pas, je l'ai senti, en fait. J'avais quelqu'un qui m'a aidé pour mon dos et il m'avait fait tellement de bien. C'était du rolfing. C'est une technique de rolfing. C'était un... Le mec de Los Angeles qui était assez incroyable et je me sentais tellement bien, j'avais plus mal au dos. Je me suis dit, bon, faut que je partage ça. Ouais. Et je suis allé et j'ai aidé un ami. Il avait eu 30 fractures dans ses genoux. C'était il faisait de la moto de compétition. Donc, il se cassait le genou, il se remettait, il se cassait, il se remettait dans ses deux genoux, ses chevilles. Donc, ça faisait 15 ans qu'il boitait, en fait, qu'il pouvait pas courir, qu'il marchait en normal. Donc, j'ai dit, viens, on essaye, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, viens, on essaye, c'était vraiment mon ami comme mon frère. Et donc, j'ai posé mes mains sur lui, sur ses genoux, en fait, et après, je lui ai dit, marche, et il avait pas mal. C'était assez incroyable, il me dit, non, j'ai pas mal. Alors, je me suis dit, bon, c'est peut-être chaud, parce que je sentais beaucoup d'énergie, parce que l'énergie, c'est concret, hein, c'est un champ électromagnétique, quoi, et on peut l'activer, on peut l'intensifier, et ça fait des choses qu'on comprend pas toujours. Pour moi, c'est lié directement à l'amour. Je l'aimais beaucoup, c'était comme mon frère. C'était un moment où j'étais très triste après avoir perdu, m'être séparé de ma femme. Et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup d'amour, on s'aimait beaucoup. Donc pour moi, c'est un des plus gros facteurs, hein, de ce qui soigne, en fait, les gens. Et après, bon, je me suis dit, on va voir. Hein, c'est peut-être juste parce que ça a été chaud et ça va se remettre. Donc trois jours après, et non, plus mal. Il m'a dit, je vais aller jouer au foot, je suis en train de réparer ma moto. Et voilà, je me suis dit, ça, c'est assez incroyable. Et progressivement, j'ai commencé à comprendre parce que bon, j'ai fait, ça s'est répété avec différents cas de maladie, différents cas de trauma, que ce soit physique ou mental. Et pour moi, ce qui se passe, c'est vraiment, en anglais, ce que je dis, un threesome, c'est une tripartite, en fait, une relation tripartite, la traduction propre, mais entre le soigneur, en fait, entre le patient et entre l'énergie, en fait, entre ce qui se passe. Et quand les trois fonctionnent ensemble, en fait, il y a ce courant qui peut passer et qui peut remettre en place presque n'importe quoi. quand on va au niveau quantique, je sais que tu me disais qu'en France, c'était encore un mot tabou, la physique quantique.
Alors, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, ça a été utilisé à tort et à travers, donc par des gens qui utilisent ce mot parce que ça peut faire bien, tu vois. Mais toi, je sais que ce qui est intéressant aussi dans ta démarche, c'est que tu vas vraiment chercher scientifiquement aussi pourquoi, tu vois, derrière, on utilise ce mot. C'est pas juste parce que c'est la dernière mode. Et de toute façon, aujourd'hui, tu vois, à l'hôpital en France, eh bien souvent, on te propose, lorsque tu as une brûlure, tu te présentes à l'hôpital avec une brûlure, ils ont les coordonnées de barreurs de feu qui vont intervenir et les médecins vont dire, on ne sait pas comment ça marche, on n'a pas la preuve scientifique, mais le fait est que les patients, même à distance, ressentent un mieux-être réel et que les brûlures se résorbent plus rapidement. Donc, tu vois, on est au stade à se dire, on constate que. Mais oui, vas-y, je t'ai coupé sur le quantique.
Oui, moi, c'est vrai que ça me fait un peu rigoler, ça, parce que je me dis dans quel monde on vit. C'est, la physique quantique, c'est pas nouveau, ça a plus d'un siècle. C'était en 1900, je crois que c'était 17 ou 26, je ne sais plus exactement, Heisenberg, ou 1913, je crois que c'était. C'est depuis plus d'un siècle la physique principale. C'est pas fringe, c'est pas. Comment dire,
c'est pas en marge.
C'est pas en marge, c'est ce qu'on applique, c'est comme ça qu'on a créé toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, la technologie nucléaire, toutes ces choses-là, ça vient de la physique quantique, donc c'est pas nouveau. C'est peut-être une mode pour certaines personnes, mais c'est vieux, c'est utilisé, c'est prouvé. Et qu'est-ce que ça dit la physique quantique? C'est qu'au niveau microscopique, quand on va en dessous de l'atome, en fait, l'atome, c'est pas une boule, comme on nous présente dans nos cours en physique, en fait, on voit des boules comme ça de matière. Ça n'existe pas, en fait. C'est des abstractions qu'on nous montre pour représenter quelque chose. Mais ces boules, elles sont constituées d'énergie en mouvement, en fait. Et cette énergie en mouvement se condense et crée de la matière et crée différents niveaux énergétiques. Mais quand on va à un niveau infinitésimal, c'est que de l'énergie en mouvement. Pareil pour notre conscience, notre pensée, c'est pareil, c'est un champ électromagnétique, c'est de l'énergie en mouvement. Donc tout, finalement, E égale MC2, c'est pas nouveau aussi, c'est Einstein. Avant la physique quantique, ça montre que l'énergie et la matière, ça a une directe corrélation. La question, c'est comment ça se corrèle, en fait, comment ça fonctionne. Mais et du coup, moi, ça fait juste sens qu'on est capable d'atteindre certaines fréquences avec nos pensées. Ben, on est capable d'agir sur notre corps. Et on fait ça en permanence. En permanence, on se soigne, on se guérit, on se crée. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est très clair. On crée nos propres traumas, on crée nos propres maladies. Oui, il y a une hérédité qui vient du corps. Mais le corps, c'est pas quelque chose de séparé de l'énergie. C'est aussi une énergie qu'on hérite et qu'on peut travailler, qu'on peut recalibrer. Et il y a l'épigénétique, je ne sais pas en France si on en parle, comme Bruce Hinton, qui explique ça très bien. Quoi. C'est pareil, ce n'est pas nécessairement fringe aussi, c'est vraiment reconnu. C'est que nos gènes, ils se reprogramment avec notre pensée, avec notre milieu socio-culturel, notre milieu extérieur. Ce n'est pas une donnée figée pour toujours. Quoi. Donc, pour moi, tout est malléable. Et tout peut se remettre en place. Quoi. Ça ne s'appelle pas des miracles. On appelle ça des guérisons spontanées ou des miracles. Pour moi, c'est un peu archaïque. Il y a des processus et c'est documenté, c'est très documenté. Il y a des preuves de ça. Il y a Dr. Joe Dispenza, je ne sais pas si tu le connais, mais il a des centaines de cas comme ça où il y a des gens qui viennent, qui les mesurent, des scientifiques du MIT, et où on voit littéralement, on peut suivre ça en ligne, hein, comment le corps se remet. Donc, c'est pas du domaine du miracle pour moi.
Bien sûr, mais c'est super intéressant d'avoir ton point de vue justement de Californien, parce que tu as habité là-bas pendant combien de temps
15 ans, aux États-Unis, où j'ai un peu bougé, mais
ouais. 5-6 ans. Et donc, de voir qu'effectivement, les pratiques qu'on va encore en France plutôt faire entrer dans le champ du bien-être, c'est pas que du bien-être, hein, c'est vraiment très efficace pour certaines pathologies. Et alors, du coup, je voulais te demander, toi qui donc a vraiment cette vision plus américaine, où est-ce que, aux États-Unis, est-ce qu'il y a beaucoup de burn-out? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont trop loin, qui essayent d'aller toujours, de faire toujours plus? Est-ce que toi, tu as vu, notamment dans les clients que tu accompagnes, une problématique autour de ce côté, vraiment d'aller pousser un peu trop loin ses capacités et mettre en danger sa santé mentale?
Ouais, quand tu me dis ça, d'un coup, un client qui me revient, c'est un gros manager de hedge fund, en fait.
Donc, fonds d'investissement.
Ouais, hedge fund, c'est fonds d'investissement. De fonds d'investissement. Et, et un mec super et qui était complètement complètement burn-out. Il avait un problème dans son nez aussi. Et je me souviens d'avoir fait une session avec lui, en fait, et à la fin, il me disait, c'était un mec, qui a une carapace, tu vois, très fort, tu vois, très dur, il gérait je sais pas combien de millions de milliards. Et donc, il avait l'habitude de prendre des décisions rapides, ci, de ça, et quelqu'un avec un très beau cœur, mais bloqué, quoi. Il comprenait pas ce qui se passait, il était vraiment dans cette matrice de production. Et à la fin, donc, on fait notre session, je fais de l'énergie avec lui, c'était quand je faisais plus de one-on-one, de sessions individuelles, c'est là, je crois, 3 ans, quelque chose comme ça. Et il me dit, il était comme un enfant à la fin, il me dit, you give me peace, tu me donnes la paix. Et c'est là où j'ai réalisé ce que je faisais vraiment avec les gens. J'ai eu quelques instances comme ça. C'était les mettre dans un état, en fait, de paix. Parce qu'ils sont constamment en un état de guerre, hein, pour aller plus loin. Ça, c'est ce qu'on apprend dans notre école de commerce. Enfin, dans tout système, tu dois faire la compétition en permanence pour monter. Et où que tu montes, tu vois, c'est ce que je lui disais. Je lui dis combien de millions, de milliards il te faut. Déjà ta maison, tu vois. Je lui dis, tu peux continuer. Il y en aura toujours des plus hauts que toi. Il y en aura toujours des plus forts que toi. Et tu seras misérable, tu vois. Mais bon, c'est pas tout le monde ne comprend ça, ou il faut du temps pour comprendre ça, mais du coup, c'est infini. Et voilà, c'est ce qui crée cet épuisement. Et de sentir cette paix, que c'est possible, ça rouvre complètement des perspectives pour pas mal de gens. Les gens changent souvent parce qu'ils se disent, oh, je peux être comme ça. C'est vraiment ce que je leur fais réaliser. C'est oui, tu peux passer ta vie comme ça. Ça devrait être ton but. Ton but, c'est pas d'accumuler des milliards, c'est de vivre ta vie comme ça. Et tu peux aussi faire une fortune, tu peux aussi construire, tu vois, pas mal de choses, même un empire. Mais ton premier objectif, ça devrait être cette paix. Et à travers cette paix, après, tu peux faire beaucoup. Donc, c'est vraiment les gens à réaliser ça, quoi. La paix, c'est une force concrète, en fait. C'est une énergie concrète, c'est un champ magnétique. Et avec ça, on peut achever beaucoup, réaliser beaucoup sans se...
sans se mettre en danger, bah bien sûr.
Sans se mettre en danger et mettre en danger les autres aussi.
Tout à fait.
C'était dur pour sa femme, pour ses enfants, pour tout le monde. Hein, quand...
Alors ça, c'est un point super important, c'est qu'effectivement, souvent, les personnes qui viennent nous voir qui sont en épuisement, ont le sentiment que prendre du temps pour elles, pour prendre soin d'elles, tu vois, c'est égoïste. Parce que c'est du temps qu'ils volent, entre gros guillemets, à leurs proches. Je te donne un exemple. Voilà, tu vas avoir, par exemple, une mère de famille qui va dire, je suis venue une semaine chez vous, mais c'est une semaine pendant laquelle, je suis pas à la maison, donc je m'occupe pas de mes enfants, je vois pas mon mari, je vais rentrer, ils auront dû tout seul faire la lessive, le ménage et tout. Et en fait, tu vois, il y a ce côté culpabilité à prendre soin de soi, que peut-être tu vois chez certains de tes clients. Parce que aujourd'hui, dans notre société, c'est pas vraiment valorisé, comme tu dis. C'est vraiment souvent il y a le côté qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu accomplis tous les jours, et pas vraiment qu'est-ce que tu prends comme temps pour tout simplement être.
C'est la première chose, c'est une des premières choses que je dis à mes clients, c'est que ça commence par toi. Si toi tu veux vraiment être là pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari ou ta femme, etc., tu dois être en forme. Tu dois te sentir bien.
C'est évident.
Et quand tu veux, ça commence par toi. Et ça, c'est un des gros problèmes. C'est que c'est pas tout le monde. Hein. Il y en a qui pensent qu'à eux-mêmes. Mais pour beaucoup de gens qui sont assez généreux, qui sont assez altruistes, il y a une sorte de programmation, de conditionnement, tu peux appeler ça un peu comme tu veux, de se sacrifier, en fait, de se sacrifier pour les autres. Je sais que j'ai fait ça moi-même aussi. Je me disais, bon, moi, je suis heureux. J'ai pas de problème. J'ai de la chance. Je peux faire un peu ce que je veux. Je suis en bonne santé. Et du coup, je devais me sacrifier. Je devais aider les autres tout le temps. Je devais au détriment de ma santé ou de mon temps, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, quand j'ai mon burn-out, où j'avais plus rien, où j'avais un peu tout perdu, et je me disais, bon, ben maintenant, il faut que je donne à moi-même.
C'est ça.
Et c'est là où j'ai compris que c'était fondamental, en fait. Parce que ce sacrifice, et maintenant, je sens vraiment ça énergétiquement. Dès que je fais ça, je commence à tomber énergétiquement parce qu'il faut plus que je fasse pour que j'aide vraiment tous les gens que je commence à aider. Maintenant, j'ai pas mal de gens dans mes groupes, tout ça, etc.
Ouais, c'est super.
Il faut pas du tout que je me sacrifie pour eux. Il faut que je les aide, que je leur donne les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver leur propre puissance, mais que je les laisse aussi faire leurs erreurs, parce qu'on n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe chez nos enfants, chez nos partenaires, tout ça. On a chacun sa responsabilité. Ouais. Et donc, c'est vraiment discerner ce qui est de notre champ et ce qui ne l'est pas, en fait. Et c'est, dans les bouddhistes, pour les gens qui sont bouddhistes, c'est ce qu'on appelle l'effort, le right effort, l'effort juste, en fait.
Ouais.
Pas trop et pas assez, c'est ce que le Bouddha enseigne, hein, pas trop et pas assez. Donc, c'est vraiment trouver cette ligne fine, parce que le trop, c'est l'ennemi aussi du bien, c'est comme le pas assez, donc il faut essayer de trouver cette ligne, et il n'y a pas à se sacrifier, parce que c'est nocif, en fait, ça va pas aider personne. C'est chez les bouddhistes ou les hindous, c'est pareil, ils parlent de karma, et les gens doivent travailler leur propre karma aussi. Et je connais pas mal de gens qui appliquent ça avec leurs enfants, ça fait des enfants forts et éveillés et courageux, parce qu'ils les laissent aussi se planter, ils les laissent aussi faire certaines choses, parce
c'est
que
ça.
Ça a besoin de ça aussi, on peut pas.
Mais bien sûr.
Vous pouvez tout protéger, donc c'est. Ouais, ça commence par soi, le bien-être, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est dissocier ce qui est de l'ego et du soi profond. Ce que je dis aux gens, se prendre soin de soi, ce n'est pas juste se mettre devant une glace, et c'est comme l'amour propre, enfin, je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, c'est self-love, on parle que de ça, dans les milieux un peu conscients, mais ça, c'est beaucoup de l'ego, et pour moi, c'est pas te regarder dans une glace et voir à quel point tu es beau ou brillant, c'est ton soi profond, ton moi profond qu'il faut travailler et aimer, et comme un enfant, en fait. Et à partir de ça, on est capable, effectivement, d'impacter les autres.
Tout à fait. Je trouve que ça rejoint ce que tu disais en introduction sur la question du sens, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où tu es capable de faire la connexion avec qui tu es réellement, ça t'autorise, en fait, à ouvrir cette porte de finalement, qu'est-ce que je veux vraiment ? Une fois que je me suis trouvée, ou du moins que j'ai commencé à cheminer sur ce chemin, sur cette route de la connaissance de soi. Et donc la question du sens, elle est fondamentale effectivement aussi pour sortir de l'épuisement, puisque c'est ça qui va faire que le chemin que tu choisiras par la suite, même si, et on en parlait avant le podcast, on peut avoir beaucoup de travail, savoir qu'on le fait pour une bonne raison, une raison qui est alignée avec soi-même et pas uniquement tournée vers les autres ou tournée vers un besoin d'accomplissement, c'est ça aussi qui permet de ne pas s'épuiser tout en faisant quoi.
Mm-hmm. Ouais, le sens c'est la clé, hein. Pour moi, c'est Mon programme, c'est ce que je fais maintenant. Il y a trois parties. La première, c'est Master Yourself, donc se maîtriser soi-même, énergétiquement, mentalement, émotionnellement. La deuxième, c'est les relations, Master Relationship, donc maîtriser ses relations, parce que c'est clé. On est des êtres sociaux et donc on interagit avec notre amoureux, notre amoureuse, nos enfants, notre famille, nos amis et nos collègues au travail. Et après, master your mission, donc maîtriser sa mission. Et pour moi, c'est pas quelque chose de ou de très mystique. C'est quelque chose de concret. On a tous une mission, un sens, en fait, pourquoi on est là. Et si on trouve pas ça, on est malheureux.
Bien sûr.
En fait, parce qu'on sait pas, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait là, où on a des faux buts, je dirais, ou des sortes de faux objectifs, qu'une fois qu'on les a atteints, on est toujours aussi malheureux. Oui. Donc, trouver le sens, pour moi, c'est une des premières, c'est ça qui donne le fuel, hein, qui donne le carburant pour aller au-delà de tout. Donc, ça commence par là.
Et, très bien. Et alors justement, parce qu'on a hâte de savoir, est-ce que tu serais OK pour nous partager une petite pratique, peut-être quelque chose que tu enseignes aussi dans ta formation, peut-être une pratique assez courte pour justement lorsque les personnes ont l'impression de se décentrer, de perdre leurs repères, pour peut-être revenir à soi, qui est un point super important, hein, dans les gens en tout cas qu'on accompagne qui sortent de l'épuisement, souvent un petit stress va faire qu'ils vont surréagir parce qu'ils sont encore très sensibles. Donc, peut-être une pratique pour revenir au centre. Est-ce que ça serait OK pour toi ?
Oui, on peut faire ça. Tu veux... je le fais comme live. Je te guide et je guide les gens.
Allez, c'est parti.
Oui, j'ai une pratique. Donc, en anglais, c'est reboot your energy. Donc, c'est recentrer. Hein. C'est vraiment pour recentrer son énergie. C'est quelque chose qui aide beaucoup, en fait. Là, récemment, dans mon groupe, j'ai quelqu'un, il a pratiqué une fois. Il avait pas mal d'addiction, en fait, on dit addiction, oui, d'addiction qu'il n'arrivait pas vraiment à changer. Il m'a dit, j'ai commencé à le faire chaque matin et j'ai réalisé, j'ai même pas travaillé sur mes addictions, j'ai réalisé que j'en avais moins en moins envie, en fait, de faire ça. Ouais, ça a changé pas mal de gens. Il y a des gens qui ont soigné leur maladie chronique en le faisant régulièrement. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. On va ou on va le faire, peut-être on va le faire directement, c'est plus simple. Donc pour les gens qui sont en train de conduire, il vaut mieux s'arrêter parce qu'on doit devoir fermer nos yeux. Aussi, on peut le faire. Enfin, moi, je fais les yeux ouverts. Hein. C'est pas nécessaire de fermer ses yeux. Je recommande ça parce que généralement, c'est plus facile. Donc, on peut fermer ses yeux ou pas.
Moi, je vais fermer les yeux en t'écoutant.
D'accord. Donc ça, on a le choix. Alors après ça, on calme son mental. On l'arrête en fait. On le silence. Et ça, on a le pouvoir de le faire. On n'a pas besoin de passer 3 ans en silence comme moi pour le faire ça. On peut juste le décider parce qu'on a un contrôle. Donc, on arrête son mental. Et après, on va descendre notre conscience, donc notre attention au niveau de notre cœur. Et on va commencer à bouger notre énergie. Donc là, c'est un mélange de sentir et de voir. Ça n'importe pas vraiment. C'est un peu flou. C'est ce qu'on sent, c'est ça vraiment qui importe. Et on commence à bouger son énergie, en fait, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous pouvez imaginer une sorte de vortex, hein, comme un peu la forme de l'univers, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et toutes les négativités, toutes les tensions, toutes les peurs, tout le stress, on le jette, en fait, dans ce vortex, on le laisse glisser. Pas vraiment d'effort, et on laisse tout glisser là-dedans, et on fait de l'espace. On fait de l'espace, on peut imaginer comme une lumière dorée, de l'or liquide. Et on est très gentil avec soi-même, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas à être parfait, il y a... Juste gentiment, on peut bouger sa tête, bouger son énergie. Et on peut observer comment on commence à se relaxer parce que notre attention, elle descend de notre mental, dans notre cœur, dans notre corps. Et ça, donc, on peut le faire un peu avec le temps qu'on a. Hein. On peut le faire une minute, on peut le faire une demi-heure. Et après, on commence à bouger notre énergie dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc cette fois, on va créer. Dans le sens inverse, on dévisse quelque part, on enlève, on clarifie. Maintenant, on va activer ce qu'on veut. Alors, avec notre intention, dans ce nouveau vortex, dans ce aiguilles d'une montre, on envoie la vitalité qu'on veut avoir, la confiance, le calme, la paix, le succès. Ça peut être des objectifs concrets ou immatériels. On charge en fait notre champ énergétique avec cette force, avec ses possibles. Et après, on peut revenir gentiment. Alors là, c'est pareil, hein, on peut continuer à faire ça le temps qu'on veut. Ça dépend du temps qu'on a disponible. Mais après, on peut revenir gentiment à notre vie extérieure, je dirais, en gardant cette énergie avec nous, en gardant cette paix et en sachant qu'on peut la retrouver à tout moment, en fait.
Super, j'adore. Merci Sky. Est-ce que ça, c'est une pratique qui est issue de ton accompagnement en ligne, c'est ça?
Ouais, ça, c'est la pratique clé. Ça s'appelle le double vortex. Donc, je trouve que ça serait le double vortex, hein, en français. Et c'est une technique que j'ai reçue dans mes méditations. En fait, j'ai commencé à la faire progressivement comme ça. Et ça fonctionne très très bien. C'est la technique que j'utilise dans la plupart de mes soins. C'est celle que j'apprends aux gens pour le faire eux-mêmes. En fait, j'ai quelqu'un récemment qui avait un cancer. Elle avait un niveau 4 en fait de cancer des poumons. Et donc elle était plus ou moins condamnée. Hein. Et c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup beaucoup de travail sur elle-même, qui avait vu des soigneurs, qui avait fait de la chimio, qui avait un peu tout essayé, qui avait un mari super, une petite fille super, et qui vraiment voulait vivre. Et je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai dit, toi, tu vas t'en sortir, tu as tout ce qu'il faut. C'est pas normal. Donc, elle a fait le cours, c'était en octobre, je crois. C'est ouais, en octobre, l'avant-dernière session. Et elle, elle a pratiqué tous les jours, vraiment tous les jours, parce qu'elle avait une soif de s'en sortir avec ses autres techniques de Qigong aussi. Elle fait du Qigong, elle mange, tu vois, très, très sainement, tout ça, plus d'autres techniques. Et là, elle vient d'avoir ses résultats. Elle a plus de, en anglais, c'est NED, non evidence of disease. Donc, il y a plus de maladie. En fait, elle a fait 4 scans. Donc, on va voir. Il faut que ça continue encore.
Mais
c'est pas la première fois que ça m'arrive avec d'autres maladies aussi. Et parce que les gens pratiquent. Et donc, elle a appris à se guérir vraiment. Bon, moi, j'ai aidé. J'ai fait 3 sessions, hein, individuelles avec elle. Mais après, c'est elle qui a fait tout le travail. Mais ça me plaît vraiment parce que c'est ce que je veux que les gens fassent. C'est qu'ils réalisent que oui, parfois, on a besoin de soigneurs comme moi, de magnétiseurs ou de médecins ou de chirurgie ou de médicaments. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, en fait. Moi, énormément, j'aime bien dire, il y a au moins 80-90% de choses qu'on peut faire soi-même. Et plus on pratique, plus on est capable de le faire, en fait. Donc ça, cette technique, sa puissance, c'est ça, c'est que ça aide à se recentrer, ça aide à prendre contact avec son énergie. Et ça peut juste être appliqué quand on est un peu décentré dans notre travail ou fatigué, mais on peut l'appliquer plus régulièrement pour se soigner. Donc c'est une des techniques, c'est la principale que j'enseigne dans mon cours Potentia. Donc on l'a refait ensemble, on l'a fait individuellement. Et on comprend aussi comment ça marche, parce que pour moi, oui, j'aime bien aussi comprendre. Je suis quelqu'un, j'aime bien la science, j'aime bien les choses rationnelles. Donc, j'explique aussi ça pour que on associe le mental, la compréhension mentale avec la compréhension corporelle, énergétique et émotionnelle, en fait. Donc, on travaille un peu à tous les niveaux.
Ben super, écoute... En tout cas, cette méditation, cette petite pratique-là, elle est très simple. Donc, si tu m'y autorises, je pourrais la transmettre en te citant de temps en temps donc dans nos sessions, parce que bah, s'il y a des gens qui y trouvent effectivement un apaisement, en plus, elle se met en place très rapidement. Donc, merci pour le partage.
Écoute, tu peux l'utiliser. Je ne suis pas jaloux. Moi, je suis là pour répandre mes techniques le plus possible. Je veux que les gens se soignent le plus possible. Et je te la donnerai. Je l'ai en anglais. Mais voilà, c'est assez simple, hein, c'est le même principe. Et si les gens veulent discuter aussi, parce que j'ai réalisé tout est en anglais chez moi, mais bon, s'ils veulent me contacter, je ne suis pas français, donc on pourra parler.
Oui. on a constaté que tu parlais très bien français.
Ça va, je m'en suis sorti.
Oui, ça va, c'est super. Bah, écoute, un grand merci, Sky. On arrive au bout de notre enregistrement. Peut-être tu peux redonner le nom de ton site ou l'endroit où on peut trouver donc des petites infos sur toi et sur ce que tu fais.
Donc le site, c'est K Energetics. Donc K, c'est K-A. Donc ça veut dire c'est le souffle de vie, la force de vie en égyptien. Et Energetics, c'est Energetics. .com. Vous pouvez aller sur Potentia. Ça, c'est vraiment le programme que j'enseigne. C'est maintenant mon programme clé. Et il y a aussi ma bio et d'autres détails. Et voilà. Et donc, on est en train de commencer à faire des programmes probablement en français, après en espagnol aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est le cours est en anglais, mais les sessions, je peux les faire en plusieurs langues.
Super. Écoute, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Comme quoi, hein, les grandes écoles de commerce mènent à tout. J'adore.
Je comprends enfin. J'avais connecté avec notre amie, avec Caroline. Elle me disait, oh, ton site est très bien fait. On voit ton marketing. Je lui dis, oui, après 24 ans, ça m'a enfin servi à quelque chose.
Oui, c'est ça.
Pourquoi trouver une forme à l'immatériel, le vêtement plus matériel.
C'est ça. C'est important aussi. Bon, bah, écoute, un grand merci. C'était un plaisir. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Au revoir.
À bientôt. Merci à toi.